Je pense qu'aujourd'hui, c'est mon antidouleur, le cannabis. Heureusement que le cannabis est là.
Vous prenez quelle dose à peu près de cannabis?
Moi, je pense que ça doit être à peu près 1 gramme par jour.
Et ça enlève les courbatures, entre guillemets?
Ça m'aide beaucoup, ça les diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup.
La consommation de cannabis pour soulager ses douleurs est illégale en France. Quel qu'en soit son usage, le cannabis est considéré comme une drogue. En consommer est un délit. Pourtant, comme Maria, que vous venez d'entendre, des milliers de Français en prennent régulièrement pour atténuer leurs souffrances liées à la maladie. La France est en train d'évoluer sur le sujet. En décembre dernier, l'Agence du médicament a donné son feu vert à une expérimentation du cannabis thérapeutique d'ici la fin de l'année. Un comité d'experts doit en définir les modalités. La prise de cannabis sous forme de joint est d'ores et déjà exclue.
Ça sera d'autres voies d'administration, des gouttes sous la langue, des gélules. Ça peut être aussi de l'inhalation par vaporisation.
La France peut s'inspirer de la trentaine de pays qui autorisent déjà le cannabis thérapeutique. C'est le cas d'une grande partie des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de la Suisse ou encore d'Israël. En Israël, la recherche scientifique sur le cannabis médical est en pointe et c'est là-bas que nous vous emmenons aujourd'hui. Des patients souffrant d'autisme ou d'épilepsie y sont traités avec beaucoup de succès.
Souvent, le cannabis réduit de 50% le nombre de crises. Et dans moins de 10% des cas, les crises disparaissent même totalement.
Cannabis thérapeutique, les promesses de l'herbe, c'est un reportage entre la France et Israël de Véronique Julia, Marie Semelin et Nicolas Mathias.
France Inter, Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour Véronique.
Bonjour Maria, ça va ?
Ça va bien. Bienvenue et puis je vous invite à aller dans ma maison. Venez.
On arrive chez Maria, elle marche avec un peu de difficulté, elle nous accueille dans sa petite longère au beau milieu du Perche, c'est en Normandie, juste à côté de Nogent-le-Rotrou.
Je m'appelle Maria, j'ai 52 ans, je souffre de la sclérose en plaques qui a été diagnostiquée en 2003 et j'ai également la maladie des jambes sans repos qui vient s'ajouter.
C'est-à-dire
C'est-à-dire des jambes qui ont une envie terrible de bouger. Et donc, c'est une douleur. Donc, plutôt la nuit ou en situation assise, théâtre, cinéma, où il faut que je sorte parce que les jambes font vraiment trop, trop mal. C'est comme si c'était des courbatures, mais puissance 1000. Ce sont des grands moments de solitude quand on a à faire face à la douleur et que c'est continu et que c'est terrible. Et puis, avec des amis un jour qui venaient de Belgique, j'ai fumé par curiosité. J'ai vu sur le moment que c'était plutôt décontractant, un tantinet euphorisant aussi, ce qui n'était pas désagréable.
Donc vous avez commencé à prendre du cannabis pour vous soigner?
Absolument, j'ai commencé à prendre du cannabis pour me soigner. Alors je fume moins que je fumais. J'ai appris aussi à trouver la plante, la variété de cannabis qui me convenait le mieux. Parce qu'il faut savoir que dans le cannabis, il y a plusieurs variétés. Si on veut résumer le cannabis, il y a le THC qui est psychoactif et il y a le CBD qui est le côté décontractant. Donc le côté psychoactif, moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Je veux quelque chose qui me décontracte. L'herbe que je fume est deux fois plus forte en CBD que en THC.
Vous en fumez à quel rythme ?
Je fume plutôt le soir. Même si ça peut m'arriver quand même de fumer le matin ou dans l'après-midi, si à un moment donné je sens que la douleur arrive. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est la nuit que les douleurs sont les plus fortes et me réveille et donc du coup, c'est plus le soir que je fume pour essayer de m'endormir.
Vous prenez quelle dose à peu près de cannabis ?
Moi, je pense que ça doit être à peu près 1 gramme par jour.
Et ça ? Ça enlève les courbatures, entre guillemets?
Ça m'aide beaucoup, ça les diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ça les fait pas disparaître?
Ça les fait pas disparaître, non. Mais ça soulage.
C'est-à-dire qu'on peut trouver le sommeil grâce à ce cannabis?
Oui, absolument.
Aujourd'hui, le cannabis vous permet de vous passer des autres médicaments ?
Bien sûr, des antidouleurs. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon antidouleur, le cannabis. Heureusement que le cannabis est là. J'ai pris des médicaments, des vrais médicaments, qui m'ont mis dans des états de larves, et ça, je voulais pas.
Pour se procurer ce cannabis, c'est un vrai parcours du combattant.
C'est un parcours du combattant. J'ai vécu des moments difficiles quand j'étais à Paris. Donc, je me suis retrouvée dans des situations à donner rendez-vous à quelqu'un, un dealer, à Pigalle. Et je l'ai fait deux fois. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai pris la décision d'aller à l'endroit où on en trouve facilement. C'était aller à Amsterdam. Donc, j'ai fait des allers-retours à Amsterdam. Et j'allais dans les coffee shops. Et c'était très difficile parce que j'avais la trouille énorme parce que c'est interdit et qu'il y avait les douaniers. Et puis, en plus, à cette époque-là, je ne connaissais pas les variétés. Donc, je prenais du cannabis à l'aveugle, et c'était pas bon parce que j'ai fumé du cannabis qui était beaucoup trop fort en effet psychoactif et qui ça m'a fait plus de mal que de bien. Il faut pas fumer n'importe quoi. Chaque maladie a besoin de sa variété, ou chaque personne a besoin de sa variété. Donc là, j'ai appris que j'avais fait n'importe quoi et qu'il fallait faire autrement. Là, je me suis mise à cultiver moi-même dans mon jardin le cannabis de cette variété qui me convient le mieux.
Alors, c'est quoi la variété que vous prenez ?
Ça s'appelle Guyaka. C'est une variété où il y a deux fois plus de CBD que de THC. Donc, l'effet psychotrope est très, 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 très léger, puisque je ne veux pas, absolument pas, être en situation de planer. C'est pas ça que je recherche du tout. Je veux juste être calmée, décontractée dans mon corps et dans les douleurs.
Le médecin qui vous suit pour la sclérose en plaques, il est au courant que vous consommez du cannabis thérapeutique ?
J'ai toujours dit au médecin que je consommais du cannabis thérapeutique. Et là, j'ai ce papier. Je sous-signais. Docteur en médecine, médecin traitant, certifie que l'état de santé de Maria en ALD est stabilisé et même amélioré sur le plan névralgie par l'utilisation régulière du cannabis. Certificat remis ce jour en main propre à l'intéressé, c'était le 17 novembre 2011.
Et pourquoi il avait fait ça, vous lui aviez demandé ?
Je lui avais demandé, puisque je consommais et qu'à un moment, je me suis dit, si je me fais contrôler, ça serait bien au moins que je puisse montrer ce papier en disant, voilà, juste essayer de comprendre, je suis malade, il y a quelque chose qui me fait du bien, donc voilà, ne m'envoyez pas en prison tout de suite. Donc ce que je consomme, là, je vais vous montrer où ça a poussé. Là, juste derrière dans mon jardin. Voilà, donc c'est juste un peu plus loin. Au beau milieu du jardin.
Un peu caché.
En tout cas, il y a la haie. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça a poussé là.
Et ça, sur ce petit mètre carré, on a la production d'une année.
Ah oui, tout à fait, en sachant que j'en fais plus parce que j'ai toujours peur de rater un des pieds.
Rater la récolte,
donc j'en mets trois pour être sûre d'être indépendante. Donc je vais avoir deux grands bocaux.
Pour tenir l'année,
ouais.
Nicolas Autier, vous êtes psychiatre, pharmacologue. En septembre dernier, l'Agence du médicament vous a demandé de réfléchir à l'introduction du cannabis thérapeutique en France. Au mois de décembre dernier, le comité consultatif que vous présidez a donné un avis favorable à cet usage médical. Une expérimentation pourrait donc débuter fin 2019, début 2020, vous l'espérez en tout cas ?
Oui, on l'espère, bien sûr.
Alors, des malades en France qui vous disent qu'ils prennent déjà du cannabis, est-ce qu'il y en a beaucoup et pour quelle maladie ?
Alors, beaucoup, c'est difficile de le dire précisément. Il y a de nombreux chiffres qui circulent, mais qui tournent entre quelques dizaines de milliers et peut-être quelques centaines, 200, 300 000 patients. Mais les sources sont pas toujours très fiables. Donc, il faut se dire qu'il y a probablement plusieurs dizaines de milliers de patients qui sont concernés par un usage potentiel de ce cannabis à visée thérapeutique. Ce sont des patients qui ont des maladies généralement neurologiques, des douleurs chroniques, tout simplement. Pour certains d'entre eux, des problématiques liées au cancer et qui utilisent ce traitement non pas pour traiter le cancer lui-même, mais pour traiter les symptômes associés au cancer ou les symptômes liés au traitement du cancer. On a quand même de plus en plus de patients qui nous en parlent parce que c'est de moins en moins tabou.
vous avez fait déjà des certificats médicaux à certains patients pour qu'ils puissent se déplacer avec leur herbe dans la poche?
Nos certificats médicaux n'autorisent pas à consommer du cannabis. Ils permettent d'expliquer peut-être pourquoi un patient peut consommer du cannabis. C'est toute ambiguïté de ce type de démarche.
Alors, la France est-elle en retard dans le domaine?
Oui, je pense qu'on peut le dire. La France est en retard dans le domaine. En tout cas, elle ne se commence à se poser officiellement la question que depuis, vous l'avez dit, le mois de septembre 2018. Donc, c'est-à-dire 20 ans après les premiers pays, 20-25 ans.
Alors, pour nourrir la réflexion que vous menez, vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs?
On observe, bien sûr, la littérature scientifique. On travaille en partenariat avec les sociétés savantes. On a écouté des représentants de patients. Et bien sûr, on auditionne des expertises étrangères plus avancées que nous, comme Pays-Bas, Israël, le Canada, l'Allemagne. Afin qu'ils nous disent comment, actuellement, eux, ils ont mis en place ce cannabis et quelles en sont les difficultés aussi.
Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Tel Aviv. Il est actuellement 14h, passé de 35 minutes en heure locale. La température est de 17 degrés.
En Israël, le cannabis thérapeutique est autorisé depuis une dizaine d'années. Les premiers à en prendre, au milieu des années 2000, ont été les soldats, victimes du syndrome de stress post-traumatique. La prescription s'est ensuite étendue à toutes sortes d'affections, cancer, Parkinson, épilepsie, douleurs ou maladies chroniques, comme la maladie de Crohn. Aujourd'hui, en Israël, 45 000 patients sont traités au cannabis. Il n'était que 13 000 il y a 6 ans.
Interception sur France Inter.
On est sur le boulevard Ibn Gvirol, dans le centre de Tel Aviv. Là, on est devant le dispensaire de Tikkun Olam. C'est là que les patients viennent chercher régulièrement leur traitement. Et alors, le bâtiment est protégé par 5 vigiles à peu près. Donc, c'est très fliqué. On appelle les gens un par un. Ils sont dehors dans la rue à attendre. Et ils rentrent un par un quand on les appelle. Voilà. Mais c'est très, très policé, on va dire. Et on va rencontrer Mayan Weisberg, qui est la représentante de Tikkun Olam.
So Mayan, how does it work?
Donc Mayan, comment ça marche ici?
Les patients viennent ici avec leur autorisation et leur carte d'identité. Sur l'autorisation, c'est marqué combien de grammes ils peuvent prendre et sous quelle forme. Ils peuvent prendre le cannabis sous la forme d'huile ou de fleurs ou de cigarettes pré-roulées. Les patients viennent ici une fois par mois car les ordonnances ne sont valables qu'un mois.
Ils doivent payer?
Oui. En Israël, le cannabis a un prix fixe. Il reste considéré comme un produit dangereux, donc on paye chaque mois pour son traitement. On ne paye pas le cannabis par gramme, sinon cela encouragerait le commerce illicite. Donc vous payez votre traitement chaque mois, 370 shekels, quelle que soit la quantité que vous prenez. Que vous preniez 20 grammes ou 120 grammes, vous payez le même prix.
En dollars ou en euros, ça fait combien?
Un peu moins de 100 euros. Ici, nous avons 6 salariés. Ils ont chacun leur ordinateur pour vérifier les critères d'attribution. Un patient doit toujours montrer son autorisation. Peut-être a-t-il déjà retiré son traitement mensuel. Dans ce cas-là, il ne peut pas le retirer une deuxième fois. Ça nous rendrait complice d'un délit. Donc, on contrôle tout, notamment que les ordonnances ne sont pas périmées. C'est la même chose qu'en pharmacie. Et nous avons aussi de nombreuses caméras de sécurité pour que la police puisse tout voir. Et nous avons des vigiles armés. Quand nous faisons des livraisons à domicile, nous sommes accompagnés de vigiles armés, comme à la Brinks.
Combien de personnes viennent ici chaque jour?
On peut avoir des petites journées avec une centaine de personnes et d'autres jours avec 600 personnes.
Combien de magasins vous avez?
Nous avons 2 dispensaires. C'était la volonté de notre fondateur. Être malade et consommer du cannabis n'est pas honteux. Et être dans le centre de Tel Aviv, c'était son ambition. Nous sommes ici, au cœur de la société, et nous en sommes fiers.
Derrière les comptoirs du magasin, sur des étagères, dans des boîtes, on voit des gouttes à poser sous la langue, des fleurs de cannabis, des cigarettes roulées. En lettres rouges est inscrit aussi sur les boîtes qu'il s'agit d'un produit dangereux.
Je m'appelle Mayan et j'ai 26 ans. Je souffre de la maladie de Crohn depuis que j'ai 5 ans. Avant, je perdais beaucoup de poids et j'avais des douleurs importantes. Je n'avais pas d'appétit, je n'allais pas au travail, je ne pouvais pas étudier. Et quand j'ai commencé à prendre du cannabis, j'ai repris du poids, mes douleurs ont cessé, tous les symptômes de la maladie sont partis. Je suis retournée au travail et j'ai pu terminer mon cursus.
Vous preniez des médicaments conventionnels avant ?
Oui, je suis allée voir un médecin et il m'a d'abord donné un médicament standard avec de la morphine. Mais il n'a pas marché, il n'a eu aucun effet sur les douleurs de la maladie de Crohn. Donc j'ai arrêté ce médicament et le médecin m'a dit de me tourner vers le cannabis.
Et il y a un avant et un après, finalement ? On peut dire les choses comme ça ?
Oui, ma vie a changé. Il y a eu un avant et un après. J'utilise deux formes de cannabis. J'en fume et j'en inhale.
Combien de grammes ?
Je prends 20 grammes par mois. Au départ, c'était dur d'obtenir l'autorisation d'avoir du cannabis. Depuis que je l'ai, pas de problème.
Pourquoi c'était dur ?
Parce que le gouvernement veut d'abord que vous essayiez tous les médicaments traditionnels. Et c'est seulement une fois que vous leur avez prouvé que vous avez tout essayé que vous pouvez demander du cannabis en dernier recours.
Et combien de temps ça prend tout ça ?
Moi, j'ai attendu un an avant d'avoir une autorisation. C'est pas parfait, mais ça va.
Vous diriez que vous êtes chanceuse de vivre en Israël ?
Oui, je suis très chanceuse.
Je suis le docteur Michael Dor. Je suis médecin. Et depuis 5 ans, je suis consultant à l'unité du cannabis médical au ministère de la Santé. En fait, ça veut dire que je suis le médecin référent en charge du cannabis médical. Je gère les patients et les médecins et tout ce qui a trait à l'usage du cannabis médical. Il y a plus de 2000 médecins en Israël qui prescrivent du cannabis. Mais tous les médecins ne peuvent pas le faire, c'est une prérogative des spécialistes. Leurs prescriptions arrivent à mon bureau, nous recevons chaque jour entre 300 et 500 demandes de traitement. C'est beaucoup. Nous les approuvons dans 90% des cas. Les seules contre-indications au cannabis médical sont les problèmes psychiatriques passés ou présents, schizophrénie, troubles maniaco-dépressifs ou obsessionnels, addiction, ce sont les principales contre-indications au traitement. Maintenant, à qui donnons-nous du cannabis ? Dans 40% des cas, il s'agit de patients atteints d'un cancer. Ils souffrent d'importantes douleurs. Ils ont tenté la morphine et tous les opiacés disponibles dans le monde. Ça les a constipés, ça les a fait vomir et ils ne pouvaient plus manger ni dormir. Donc on leur a fait arrêter la morphine, on leur a délivré du cannabis et d'un coup ils se sentent mieux. Ils mangent mieux, leur transit s'améliore, ils ont l'air d'aller mieux. Mais le cannabis ne guérit pas le cancer. Pas encore.
Mais du coup, vous faites fumer vos patients même âgés ?
Oui, parfois, et c'est difficile parce que vous vous retrouvez devant l'un de vos patients qui vous dit « Vous voulez me faire fumer de la drogue à mon âge ?» En fait, pour les personnes âgées, je préfère leur donner des gouttes sous la langue. C'est absorbé par les muqueuses. L'effet n'est pas immédiat, mais dure plus longtemps. Je suis médecin, donc évidemment, je déteste fumer. Mais ce qui est bien quand on fait fumer des patients, c'est que les effets arrivent 40 secondes après et restent dans le corps pendant 3 ou 4 heures. 20% de nos patients optent pour les gouttes sous la langue, surtout les jeunes et les personnes âgées. 80% préfèrent fumer le cannabis ou l'inhaler. On commence par 20 grammes par mois. Mais il y a un effet d'accoutumance. Après une certaine période, vous avez besoin de plus. Donc j'augmente les doses, pas de problème, jusqu'à 40 grammes.
C'est quoi la dose maximum?
Il n'y a pas de dose maximale. Mais je crois que 90 grammes par mois devrait être le plafond. Cela veut dire 3 grammes par jour. On ne peut pas donner plus.
Hi, I think we'll be in front of your house in like 1 minute. Okay, great. See you now.
On est dans un quartier résidentiel au nord de Tel Aviv et on va aller voir la famille French pour qui le cannabis médical a tout changé depuis 2 ans.
Hello.
Je m'appelle Jonathan French. Mon fils Henry est né en 2003. Quand il avait 2 ans, 2 ans et demi, on a remarqué qu'il se comportait différemment des autres enfants. Il était dans son propre monde et ne jouait pas avec les autres. Quand on lui parlait, il ne nous regardait pas dans les yeux. On nous a dit qu'il y avait de fortes chances qu'il soit autiste. Il y a 2 ans et demi, Henri avait alors 13 ans, et un ami m'a parlé de ce traitement au cannabis que les médecins commençaient à donner aux enfants autistes en Israël. Ils donnaient cette variété particulière qu'on appelle Avi Dekel, et ce traitement semblait donner de bons résultats. J'en ai parlé avec ma femme et nous avons commencé les démarches auprès du gouvernement afin d'obtenir l'autorisation d'avoir du cannabis médical. Ça nous a pris entre 40 et 50 jours. On était un peu inquiets avec ma femme à ce moment-là. Mais on a commencé à lui donner les gouttes de cannabis. Et après 48 heures, il y a eu un grand changement chez lui. Avant, quand il rentrait de l'école, il avait l'air triste, stressé, inquiet, frustré. Après 48 heures de traitement, il est rentré de l'école, il a ouvert la porte et nous a dit « Salut maman, salut papa, comment s'est passée votre journée ?» Il y a eu un changement considérable. Avant, quand on modifiait sa routine, il mettait 2 jours à s'en remettre. C'était un cauchemar. On ne savait pas quoi faire avec ma femme. La molécule de CBD a tout changé. En tant que père, j'ai aussi remarqué qu'avant, on ne pouvait pas jouer au foot ensemble dans le jardin. Ça n'arrivait jamais. Aujourd'hui, le traitement le fait sortir de son monde pour rejoindre le monde des autres. Sa vie a changé, et celle de notre famille aussi. Le cannabis a ouvert une porte dans son cerveau, et maintenant, il est connecté au reste du monde.
Je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas de miracle qui se produit quand il prend du cannabis, avec des petits anges au-dessus de sa tête et tout est parfait. Il vit toujours avec la maladie. Le cannabis lui permet d'exprimer les bonnes choses qu'il a en lui et de mieux gérer sa maladie. Alors Henri, justement, il se lève pour nous montrer comment il prend ses gouttes tous les jours. Il sort la petite bouteille, la pipette. Henri, c'est un grand ado très consciencieux.
Avant, j'étais très renfermé. À chaque fois qu'on me demandait de faire quelque chose, j'étais effrayé. Je restais dans ma chambre, je pleurais, je me griffais. J'étais tellement stressé. Le cannabis m'a permis de m'ouvrir. Je me sens plus en confiance. Physiquement, je me sens soulagé. C'est comme si j'avais quelque chose de collé dans ma main qui d'un seul coup s'en allait. Je dors mieux. Je suis vraiment détendu. C'est la première fois de ma vie que je me sens détendu. Je sais que je suis une personne différente. Je n'aurais jamais pensé il y a 3 ans que je serais comme je suis aujourd'hui.
Quatrième étage de l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. C'est un des plus grands hôpitaux de la ville. On va voir le docteur Adi Aran, qui est neuropédiatre et qui prescrit depuis quelques années du cannabis à des enfants épileptiques et autistes.
Je prescris du cannabis depuis 6 ou 7 ans. J'ai commencé avec l'épilepsie. Et ensuite, j'en ai prescrit aux enfants autistes. Ces 3 dernières années, j'ai traité plus de 300 enfants autistes. Donc j'ai une certaine expérience à ce sujet. Ce n'est pas moi qui propose le cannabis. Nous en donnons uniquement si les parents en font la demande.
Pourquoi c'est pas vous qui proposez ?
On n'en est pas là. Les effets bénéfiques du cannabis sont prouvés sur l'épilepsie. Et nous avons des études à ce sujet. En cas d'épilepsie réfractaire, si vous ajoutez un énième médicament conventionnel au traitement, cela n'améliorera la santé du patient que dans 2% des cas. Ce n'est pas un énorme succès. Les chances de succès avec le cannabis sont bien plus importantes. 10% de nos patients n'ont plus de crise. C'est bien plus qu'avec n'importe quel autre médicament. Donc je propose le cannabis pour traiter l'épilepsie. Dans le cas de l'autisme, nous n'avons pas assez de recul. J'ai mené 2 études, une seule a déjà été publiée. L'une était une étude d'observation. Les parents ont déclaré que leurs enfants allaient mieux, voire beaucoup mieux après avoir pris du cannabis. 62% d'entre eux déclaraient que le comportement de leurs enfants s'était amélioré. Mais c'était une étude qui manquait de rigueur scientifique. Et nous savons que dans l'autisme, il y a un effet placebo réel. Donc nous n'étions pas surpris de trouver de très bons résultats. Il faut mener des études plus scientifiques et tester l'alternative placebo. C'est ce que nous avons fait récemment. Cette étude n'est pas encore publiée, je ne peux pas vous en donner les résultats.
Donc pour l'autisme, vous n'avez pas de preuves solides ?
Pour l'instant. Il y a de nombreuses études en cours. Et dans 2, 3 ou 4 ans, nous aurons des preuves plus solides. Mais vous savez, en médecine, les choses prennent du temps. Tous les médecins sont par nature conservateurs, et c'est très bien comme ça. Alors je sais qu'en Israël, il y a un vrai engouement autour du cannabis médical. Et j'essaie d'expliquer que ce n'est pas un miracle. C'est un nouvel instrument dans notre boîte à outils. Ça peut aider les enfants autistes, et je vois que cela aide de nombreuses familles. Mais ce n'est pas un produit miracle. J'essaie de mesurer les espoirs.
Est-ce que vous avez vu des miracles ?
Non, pas de miracles. J'ai vu des familles dont la vie s'est vraiment améliorée grâce au cannabis. Pour l'autisme et l'épilepsie, nous avions des enfants qui étaient hospitalisés 3 ou 4 fois par an, qui faisaient de nombreuses crises d'épilepsie. Et après avoir commencé le cannabis, ils se sont stabilisés. Leurs crises ont cessé. Souvent, le cannabis réduit de 50% le nombre de crises. Et dans moins de 10% des cas, les crises disparaissent même totalement.
Interception, le magazine de la rédaction.
En Israël, le cannabis médical est autorisé depuis plus de 10 ans. Mais la recherche scientifique sur cette plante a débuté il y a bien plus longtemps. Dès le début des années 60, grâce au professeur Raphaël Meshulam. C'est lui qui a découvert le THC, le principal composant psychotrope de la marijuana. Aujourd'hui, à 89 ans, il continue de travailler à l'Université hébraïque de Jérusalem, où il a reçu Véronique Julia.
Bienvenue à l'Université de Jérusalem.
Take seats.
Well,
De nombreux pays ont décidé dans les années 30 d'empêcher l'usage du cannabis et c'est pour ça que la recherche a été aussi difficile. En 1960-62, on a commencé à travailler dessus pour la simple raison qu'on ne connaissait rien au sujet, ou quasiment rien sur les principes actifs du cannabis. Je suis allé voir l'administrateur de mon institut, c'était l'Institut Weizmann à l'époque, et je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un dans la police qui pourrait me donner du cannabis pour mes recherches. Il a appelé un de ses amis, c'était le numéro 2 ou 3 de la police. Il a dit d'accord, qu'il vienne me voir, on va lui donner du hashish. Je suis donc allé à la police, ils m'ont donné 5 kilos de hashish et j'ai pris le bus avec. J'ai eu de la chance, car aux États-Unis ou en Europe, je ne pense pas qu'on m'aurait laissé faire une chose pareille, parce que les lois y sont très strictes.
Donc vous aviez vos 5 kilos, qu'est-ce que vous avez découvert et combien de temps ça vous a demandé ?
On a commencé à isoler les principes actifs du cannabis et on a identifié le THC. C'est le composé qui fait planer, qui change l'humeur. Mais il y a un autre composé très important qui s'appelle le cannabidiol, qui n'est pas psychoactif, mais qui modifie l'activité du THC et qui a bon nombre de vertus médicales. Une fois qu'on a eu ces bases de connaissances chimiques, on s'est rapproché des hôpitaux pour voir dans quelle mesure on pouvait utiliser ces composés en médicaments. Avec une de mes collègues, par exemple, spécialiste en cancérologie pédiatrique, on a commencé à donner aux enfants un peu de THC sous la langue. Et tous les effets secondaires de leur traitement ont disparu.
C'était quand ?
En 1980. À la même époque, à peu près, on a travaillé sur l'épilepsie. On avait 15 patients épileptiques. La moitié d'entre eux a reçu du cannabidiol à haute dose. Et ils n'ont plus fait autant de crises. La plupart n'en faisaient plus. Certains en faisaient moins. Et un seul a continué à en faire. Après, que s'est-il passé ? Rien du tout. Pourquoi avoir attendu 35 ans ? À cause de la loi qui dit que le cannabis est illégal. On devrait considérer le cannabis comme un médicament potentiel très important. Mais ce n'est pas encore le cas. Dans de nombreuses situations, on aurait besoin d'essais cliniques. Par exemple, sur la dépression des personnes âgées. On a cherché à savoir si cela pouvait les aider. On en a sélectionné une vingtaine, certains avec Alzheimer, d'autres avec des maladies associées, certains en très mauvais état, qui devaient être nourris, lavés, qui ne voulaient plus parler à personne. L'infirmière a commencé à leur donner de petites quantités de cannabis et la plupart d'entre eux a progressé. Ils ont commencé à parler, à se nourrir, à se laver tout seul. Donc on pressent que ça peut aider les personnes âgées dépendantes, mais il nous faut de bons essais cliniques.
Il faut plus d'études cliniques, c'est ce que dit également Dedi Meiri. Ce quadragénaire est devenu depuis quelques années la star mondiale de la recherche en cannabis thérapeutique. D'après lui, tout reste à faire, car le cannabis est une plante bien plus complexe qu'il n'y paraît.
Mon laboratoire est spécialisé dans la recherche sur le cancer. Donc, au début, j'ai travaillé sur les propriétés anticancères du cannabis. Très vite, on a réalisé qu'il n'y avait aucune connaissance scientifique sur cette plante. Vous prenez une plante, vous en prenez les principes actifs, vous les mettez sur des cellules cancéreuses et vous voyez certains effets. Mais si vous prenez une autre plante cannabis, une autre variété, et que vous faites la même chose, ça ne marchera pas. Donc il y a des différences selon les variétés. Aujourd'hui, dans mon laboratoire, j'ai plus de 700 variétés de cannabis. Cannabis, c'est le nom générique de plein d'espèces dont les composés sont différents. Et le problème qu'on a, c'est que personne au monde ne sait lire et identifier tous ces composés. Dans la plante, il y a plus de 100 principes actifs. Le THC et le CBD ne sont que deux d'entre eux.
Aujourd'hui, en fait, on donne un peu à l'aveugle, mais est-ce qu'il faut de toute façon passer par là ?
La prescription aujourd'hui en Israël indique combien de grammes sont nécessaires. Le patient va ensuite chez le fournisseur agréé de cannabis et c'est lui qui décide ce qu'il faut lui donner. Donc le médecin ne prescrit pas un médicament précis, il prescrit quelque chose de général. Le patient va chercher son produit, si ce qu'on lui a donné ne convient pas, il retourne chez le fournisseur et on cherche autre chose. Aujourd'hui, mon laboratoire travaille avec les fournisseurs justement pour trouver le meilleur traitement dès le départ. Pour l'instant, c'est vrai qu'on avance un peu à l'aveugle. Le patient prend son cannabis, cherche sa dose tout seul, une taf, deux taf, trois taf, quatre taf, pour voir si ça marche et si ça réduit sa douleur. Il apprend tout seul ce qu'il lui faut. C'est de l'automédication finalement. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore capable d'avoir un patient qui dirait « voici ce dont je souffre » et à qui on répondrait « tiens, prends ça ». On n'en est pas encore là. On y arrive. Bientôt, on sera plus précis sur de plus en plus de maladies.
En Israël, le cannabis thérapeutique est autorisé, mais le cannabis reste une drogue et les autorités redoutent le marché noir. Un quart de la production médicale finirait sur le marché récréatif.
Hi Dana.
Hey.
Pour éviter les abus, le ministère de la Santé limite les doses délivrées s'il les juge excessives, mais les patients ne sont pas toujours d'accord.
Mon nom est Dana Baron, j'ai presque 37 ans. Je préside l'association pour le cannabis médical ici en Israël. Je souffre depuis la naissance d'une maladie génétique, une maladie neuromusculaire, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Les symptômes sont une faiblesse des muscles dans tout le corps, les jambes, les bras, la respiration aussi, le système digestif, les muscles du visage. Je suis née avec cette maladie, j'ai été diagnostiquée quand j'avais un an, et à l'âge de 24 ans, la maladie s'est accélérée. Les médecins m'ont même prédit que je deviendrais complètement dépendante au bout de 5 ans. Donc, j'ai commencé des recherches et je suis tombée sur un article de l'Université de Washington. L'article disait que le cannabis pouvait aider les gens qui souffraient de cette maladie. J'ai donc envoyé l'article et un courrier à quelqu'un que je connaissais au ministère de la Santé et j'ai demandé l'autorisation de prendre du cannabis médical. J'étais la seule dans mon cas et une des premières en Israël. J'ai eu l'autorisation en janvier 2008. Trois mois plus tard, je dansais à mon mariage. Pour être capable de marcher sur mes deux pieds, j'ai besoin de 6 grammes par jour. Pour pouvoir vivre seul, chez moi, dehors, j'ai besoin de 6 grammes par jour. Et deux fois par le passé, ils ont tenté, contre l'avis de mon médecin, de baisser ma dose, et j'en ai souffert. Quand il a fallu renouveler mon autorisation, parce qu'on doit la renouveler tous les 6 mois ou une fois par an, ils n'ont validé que les 2/3 du dosage. Ils ont renouvelé l'autorisation pour 4 grammes au lieu de 6 grammes, contre l'avis de mon médecin.
Pourquoi ? Vous ne savez pas ?
La dernière fois, ils ont expliqué, sans avoir vu ni parlé à mon médecin, bien sûr, que j'avais besoin d'une cure de désintoxication. En gros, ils ont dit que j'avais abusé et qu'il fallait donc mettre un terme à cela. Beaucoup de patients sont obligés de gérer un dosage insuffisant. Le docteur dit que c'est 50 grammes par mois, le ministère de la Santé ne leur en donne que 40. Donc 5 jours avant la fin du mois, ils n'ont plus de traitement, les douleurs reviennent et ils ne peuvent plus marcher, évidemment. Ils nous accusent d'utiliser ce cannabis non pas pour nous soigner, mais pour le vendre. Je suis désolée. Ça fait 15 ans qu'on en prend en Israël. Et je ne connais pas un seul cas de patient qui aurait été attrapé et envoyé en prison pour une chose pareille. Donc je suis désolée. Et même, supposons qu'ils aient raison. Imaginons une seconde. Dans tous les lots, il y a une pomme pourrie. À cause d'une pomme pourrie ou deux, je devrais retourner en chaise roulante ? Non, je suis désolée.
Donc Israël n'est pas le paradis.
Non.
Non. I'm sorry to burst everybody's bubble.
Je suis désolée de doucher votre enthousiasme.
Interception sur France Inter.
Quoi qu'il en soit, le cannabis à usage médical va bientôt rapporter des recettes non négligeables à l'État d'Israël. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à l'exportation de cannabis thérapeutique, ce qui pourrait générer un revenu de 230 millions d'euros par an. Nous revenons en France, où Véronique Julia a demandé à Nicolas Autier, le président du comité d'experts, ce qu'il pensait de l'exemple israélien.
Finalement, on a l'impression qu'en Israël, ils sont conscients qu'ils ne savent pas encore grand-chose sur le cannabis. Ils ont commencé à en prescrire il y a une dizaine d'années, mais finalement, ils reconnaissent qu'ils en connaissent qu'une partie pour l'instant.
C'est à la fois ce qui explique qu'on prend un peu notre temps aussi en France pour essayer de bien comprendre ce que l'on va faire. Et puis c'est aussi un peu étonnant, parce qu'on pourrait se dire qu'en 10 ou 20 ans pour le Canada, on aurait pu collecter suffisamment de données et faire suffisamment de recherches. Or, l'accès au cannabis à visée thérapeutique s'est fait de manière souvent très libérale et très peu encadrée par des démarches scientifiques. Donc on a manqué pendant très longtemps d'évaluations scientifiques qui commencent maintenant à arriver depuis 2, 3, 5 ans maximum.
Parce qu'en fait, il n'y a pas un cannabis, mais des cannabis. C'est toute la difficulté de la réflexion, j'imagine.
Exactement. Il existe une plante qui est le cannabis thérapeutique, mais il existe beaucoup de sous-espèces et de variétés dans cette plante. Et donc, ces plantes varient en qualité en fonction de ce qu'elles contiennent en cannabinoïdes. Et ces substances-là peuvent varier et faire varier l'effet qu'elles auront sur différentes pathologies.
On est sûr de quoi aujourd'hui, scientifiquement ?
On est sûr que le cannabis a un impact dans certaines douleurs, qu'on appelle neuropathiques. C'est le niveau de preuve le plus élevé. On sait qu'il a clairement un bénéfice lorsqu'on a des pertes d'appétit, des pertes de poids importantes associées à des maladies comme le cancer. On sait qu'il a un intérêt aussi pour être un antinauséeux. On sait que ce médicament peut avoir des effets, notamment dans certaines formes d'épilepsie réfractaire.
En France, vous n'avez pas envie d'aller sur des terrains pas encore très balisés, c'est-à-dire le prescrire pour l'autisme ou des choses comme ça, où il n'y a pas encore beaucoup de preuves.
En France, l'expérimentation qui est prévue ne prévoit pas effectivement de s'élargir à des terrains où le niveau de preuve est très très faible.
Alors en France, il va, dans l'expérimentation que vous envisagez, ça va prendre quelle forme ? On pourra fumer ce cannabis, on le prendra en première intention, on le prendra après l'échec de d'autres médicaments conventionnels ?
Alors tout d'abord, comme on l'a dit, ça concerne des pathologies qui sont réfractaires aux thérapeutiques conventionnelles. Donc ça veut dire que ça sera un usage en dernière intention. Et puis ensuite, on a clairement contre-indiqué la voie fumée, parce que il y a des risques cardiovasculaires et des risques cancérigènes. Donc ça sera d'autres voies d'administration, des gouttes sous la langue, par voie orale, des gélules, ça peut être aussi des sprays, ça peut être aussi de l'inhalation par vaporisation, c'est-à-dire sans combustion chaude, pour éviter justement la production de produits cancérigènes. Donc il y a différentes voies qui sont actuellement discutées, qui doivent permettre à la fois d'utiliser ces médicaments-là en traitement de fond, donc un effet durable sur la journée, et peut-être avoir des formes à action rapide, notamment pour traiter des douleurs qui s'installeraient rapidement dans la journée.
Dans l'expérimentation qui sera menée dans quelques mois, est-ce qu'il y aura des doses très précises associées ? Qui pourra prescrire ? Est-ce qu'on va aller aussi loin dans le détail ?
On va essayer d'aller assez loin dans le détail de l'expérimentation pour l'encadrer le plus possible, parce qu'actuellement, les médecins en France ne savent pas prescrire le cannabis. Donc il va falloir quand même accompagner cette expérimentation, ne serait-ce que pour rassurer aussi le corps médical, et rassurer les patients, car il ne faut pas croire que tous les patients soient rassurés de recevoir du cannabis à visée thérapeutique. Donc il va falloir un minimum standardisé, probablement donner des intervalles de dose pour certaines pathologies et peut-être des durées de traitement, peut-être encadrer aussi les voies d'administration. Il y aura probablement un encadrement sur la délivrance de ces substances qui peuvent être fractionnées toutes les semaines auprès de pharmacies hospitalières ou de pharmacies de ville.
Finalement, en France, Bernard Kouchner en parlait au début des années 2000 de ce cannabis thérapeutique. Pourquoi on met autant de temps ?
Parce que ce cannabis à visée thérapeutique est parfois perçu peut-être par des autorités comme une sorte de cheval de Troie, d'une légalisation totale du cannabis, ce qui n'est clairement pas le cas de cette démarche.
Vous vous dites quoi ? C'est un outil en plus ?
Oui, moi je crois que c'est une approche complémentaire qui va venir s'associer aux approches déjà existantes. Mais il ne faut pas se voiler la face. Une partie des patients ne supporteront pas le cannabis à visée thérapeutique et l'arrêteront. Et une partie d'entre eux n'auront aucun effet. Donc peut-être que l'on pourra imaginer soulager 20, 30 à 40% de patients en plus. Ce qui serait déjà énorme compte tenu de la prévalence, notamment de la douleur chronique.
L'expérimentation en France devrait débuter d'ici la fin de l'année. Le comité d'experts doit en donner les modalités en juin prochain. Cannabis thérapeutique, les promesses de l'herbe, c'était un reportage de Véronique Julia et Marie Semelin. Prise de son, Nicolas Mathias. Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. Mixage, Vincent Godard. À la semaine prochaine.